Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Chers auditeurs de Canal Academy, bonjour et bienvenue dans la rubrique Revue littéraire de l'émission Au fil des pages, consacrée aujourd'hui à une revue belge, Marginal. Marginal est une revue fondée en 1945 par Albert Aigpars, un grand de la littérature belge, aujourd'hui malheureusement un peu trop ignoré, poète du réalisme social, romancier. Je voudrais citer notamment Simon la Bonté, paru en 1965 chez Calman Levy, qui est l'un des rares ouvrages qu'on peut encore trouver en librairie, de Albert Aigpars. Un écrivain très engagé entre les deux guerres, proche notamment de Charles Plisnier, qui était également le fondateur du Front de littérature de la gauche entre 1934 et 1935, et c'est une époque qui me rappelle, je dois le dire, un autre rebelle de la littérature dont j'ai eu l'occasion de parler sur cette antenne, André Chanson. Alors, comment est-ce qu'on peut douter avec un tel fondateur, aussi engagé socialement, que Marginal se soit dès l'origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social? La parole d'un esprit collectif. Et l'esprit collectif, finalement, c'est le fondement de toute revue littéraire, mais particulièrement de celle-ci. Cet esprit qui l'a conduit à s'ouvrir à des courants extrêmement divers et à donner surtout aux auteurs belges la tribune qui peut-être leur manquait. Alors Marginal, c'est d'abord 229 numéros jusqu'à son arrêt en 1991-91. C'est ensuite 7 ans d'interruption et puis la renaissance en 1998 avec le numéro 230, sorti en pleine affaire du trou, dont l'évasion manquée avait bouleversé la Belgique, qui fournit d'ailleurs son premier thème à la revue Une Nouvelle Formule. Marginal reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an, ce qui est loin d'être négligeable. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'accueille avec plaisir mon invité du jour, Jacques de Decker, venu tout spécialement de Bruxelles, cette ville qui nous est commune. Jacques de Decker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Marginal depuis sa reprise en 1998. Vous êtes écrivain, homme de théâtre, critique littéraire, romancier. Parmi vos romans, je voudrais citer notamment La Grande Roue, paru chez Grasset en 1985. Vous êtes également nouvelliste et vous avez publié en 2003 chez Le Grand Miroir un savoureux recueil de nouvelles, Tu n'as rien vu à Waterloo, que j'ai particulièrement apprécié. Vous êtes également traducteur, vous avez traduit notamment Goethe et Woody Allen. Vous êtes également animateur de rencontres littéraires, dont les fameuses conférences des Midi de la Poésie, dans l'auditoire du Musée d'Art Ancien de Bruxelles. Et puis vous êtes aussi, je le souligne, membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique et son secrétaire perpétuel depuis 2002. Dans cette institution sœur de l'Académie française, dont nous parlons en détail dans une autre émission sur canalacademy.admire, vous avez été élu au fauteuil d'Albert Aigpars, fondateur de Marginal, le 8 mars 1997. Et c'est la raison intime, dites-vous dans votre éditorial du premier numéro de Marginal Nouvelle Formule, c'est la raison intime pour laquelle vous avez voulu reprendre cette revue, la faire revivre. Alors Jacques de Decker, ma première question, elle est évidente. Au-delà de votre lien personnel avec Albert Aigpars, dans quel esprit avez-vous repris cette revue? Je vais dire par là. Le titre, Marginal, évoque l'idée d'une parole à la marge. Une parole qui n'est pas dans le concert médiatique, dans le tohu-bohu du politique, mais qui veut marquer l'originalité de la parole littéraire. Marginal, est-ce donc, finalement, le murmure de la Révolution, l'écho de la voix d'Aigpars des années 30? Ou est-ce, plus simplement, la voix de la différence, de la pensée réfléchie, si j'ose dire? chose qui semble un peu incongrue et donc marginale dans le monde d'aujourd'hui. Je vous en prie, Jacques de Decker.
Mais pour moi, il y a eu trois motivations, je crois, principales qui m'ont mené à relancer Marginal. D'abord, le regret que la revue ait cessé en 91. Je l'ai vraiment beaucoup regretté. C'était une revue que je n'ai découverte, moi, que dans les années 60, puisque je suis né la même année que la revue. Et où, d'ailleurs, Albert Aigueparse m'avait accueilli comme jeune écrivain, avec cette hospitalité extraordinaire qui le caractérisait. Donc, la mort de Marginal m'avait beaucoup affecté. J'étais d'ailleurs pas le seul à le ressentir, mais il se trouve que Aigueparse était né avec le siècle et qu'on n'allait pas lui reprocher à 91 ans d'arrêter de publier sa revue. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ayant été élu à la succession d'Albert, que j'admirais et que je chérissais beaucoup, il m'a semblé que la seule chose qu'on puisse faire pour prolonger l'œuvre d'un auteur, c'est pas prolonger son œuvre, c'est imbécile et d'ailleurs insensé, mais c'est tout simplement prolonger son action. Et son action, c'était d'avoir cette revue. Donc c'était la deuxième raison. Mais la troisième, puisque la revue a redémarré tout à la fin du siècle passé, était liée au climat assez lourd que l'on vivait en Belgique à ce moment-là. La dernière décennie du XXe siècle pour la Belgique va, je crois, rester dans les annales comme l'année des grandes affaires et des grands scandales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un grand scandale financier autour de commissions qui avaient été versées à des partis politiques au moment de l'achat d'avions pour l'armée de l'air. Il y avait eu l'assassinat d'un ancien vice-premier ministre, question qui n'a d'ailleurs pas été entièrement résolue jusqu'à présent et qui m'avait d'ailleurs amené, moi, à écrire un roman à clé là-dessus qui s'appelait « Le ventre de la baleine ». Et puis, il y avait l'affaire du trou. Pourquoi est-ce que l'affaire du trou a eu un tel retentissement en Belgique? Parce que des meurtriers en série et des malfaiteurs de ce genre, on en trouve partout. Mais pourquoi est-ce que ça a sensibilisé la Belgique à ce point-là? C'est parce que ça permettait d'interroger le bon fonctionnement des institutions, notamment policières et judiciaires dans le pays. Donc tout ça avait amené énormément de soubresauts et il m'avait semblé que dans les innombrables commentaires que l'on faisait là-dessus et qui étaient essentiellement des commentaires politiques d'un côté et journalistiques de l'autre, manquait le point de vue des intellectuels et plus particulièrement des écrivains. Que les écrivains avaient besoin d'une tribune. Mais en même temps, il ne me semblait pas qu'il fallait demander aux écrivains de tenir des discours qui se substitueraient aux discours politiques ou aux discours journalistiques. Il fallait qu'ils se servent de leur propre langage, c'est-à-dire celui de la création littéraire. Donc de faire une revue à proprement parler littéraire, mais qui soit axée sur les grandes questions du jour et les grandes questions d'actualité. Et effectivement, lorsque a eu lieu cette évasion manquée de Dutroux, qui était un épisode absolument ubuesque de cette affaire, il m'a semblé qu'il y avait là, sans doute, pour les écrivains, une matière à variations assez fécondes. Et ça s'est vérifié. C'est-à-dire que nous avons relancé la revue très rapidement après cette nouvelle. Nous avons envoyé...
Vous avez même avancé, je crois, la parution, la date
de parution. Oui, on avait un plan avec l'éditeur Lucille Quin de mettre la revue en route à ce moment-là. Mais quand on a appris qu'on avait la possibilité de réagir à cet événement, on a accéléré le processus et on a envoyé des lettres à des dizaines d'écrivains. Et nous avons constitué le premier numéro, donc qu'on a appelé la Grande Petite Évasion, en quelques semaines. Et moins de 2 mois après l'événement, le premier numéro de Marginal était sorti. Donc effectivement, comme vous dites, c'est une revue qui cherche à refléter, à faire écho à toute une série de questions d'actualité par le biais de la littérature. Et là, je pense qu'il faut quand même un peu nous distinguer de ce qui organisait et structurait la démarche d'Albert Aigueparse. Albert Aigueparse est un intellectuel d'avant-guerre qui s'est constitué idéologiquement dans ces années-là, et puis qui a vécu la guerre, et puis l'après-guerre, et qui, au moment où je l'ai connu, avait beaucoup perdu de ses idéaux politiques de jeunesse, parce qu'il était un déçu de toute une série d'utopies du XXe siècle. Il n'avait pas du tout changé d'avis, mais il avait le sentiment d'avoir été à diverses reprises, je songe en particulier par exemple au pacte germano-soviétique, été trahi quelque part. Et c'est cet homme-là que moi j'ai connu, qui était un homme toujours aussi généreux, toujours aussi attentif, mais un peu brisé sur le plan de ses grands engagements de jeunesse. Ce que nous ne pouvons faire, nous, je crois, après 90, après 89 exactement, après la chute du mur, et dans le contexte de ce qu'on a appelé l'effondrement des idéologies, qui est une grande expression, mais qu'il faut un petit peu détailler, c'est retrouver la place de l'écrivain par rapport à l'histoire en cours de route.
D'accord. Donc, la rage. Alors, j'en viens à ce numéro, numéro 262, que vous avez fait paraître à l'été 2006, sous les clichés La Rage, parce que vraiment, c'est un numéro qui m'a, je dois te dire, frappé, estomaqué. Et je voudrais que vous nous en disiez quelques mots et que vous puissiez nous dire dans quel esprit et pourquoi finalement est-ce que vous avez choisi ce numéro qui est vraiment, qui explose en quelque sorte et qui nous explose à la figure, oui, sous les clichés, La Rage.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance au titre et j'espère toujours que le titre indique le plus complètement possible ce que le dossier littéraire d'introduction du numéro recouvre. C'est un titre, d'une part, qui fait allusion à un slogan de 68 qui était sous les pavés, la plage, et de l'autre, qui dit tout autre chose. En fait, ce qui m'a animé à lancer ce numéro-là, c'était justement de montrer la grande différence entre le climat, disons 68-art, et le climat de 2006, c'est-à-dire moins de 40 années après. La grande différence entre les deux, c'est d'abord la disparition de toute une série de repères idéologiques, appelons-les comme ça, la perte de référence, cette espèce de réduction de la rigueur de la pensée, l'impossibilité de véritablement se raccrocher à l'un ou l'autre courant, à la fois d'analyse et d'intervention, qui pourrait structurer la démarche. Et on ne répond plus à l'événement, finalement, que par le cliché. Le cliché, c'est la pensée toute faite. C'est la pensée héritée, c'est la pensée schématique.
Qui ne vous appartient pas, en plus.
Qui, en plus, n'est pas le produit du sujet, qui est simplement quelque chose que le sujet arbore, bricole comme il peut, etc., sans trop savoir ce que les notions que, quelquefois, il utilise recouvrent réellement. Et ça entraîne alors, de la part, disons, de toute une autre frange de l'opinion, un sentiment d'impuissance qui ne peut plus avoir pour expression que la rage. Et c'est ce qu'on a constaté au moment des émeutes dans les banlieues, à Paris, par exemple. C'est un exemple, mais on est obligé toujours de considérer ce qui se passe en France et à Paris en particulier comme emblématique. C'est le propre de Paris. Paris est une ville qui a la capacité de faire image et de clarifier quelquefois le propos. Ce qu'on a vu là, c'est sur un phénomène de fond, de base, extrêmement violent, des discours qui étaient des discours du type du tout venant, c'est-à-dire du cliché. Et d'autre part aussi, même dans l'approche journalistique, un manque de courage, un manque de travail de terrain et un manque d'analyse en profondeur. Donc, je me suis dit, c'est peut-être par excellence une réalité sur laquelle les écrivains ont quelque chose à dire. Et le numéro l'a prouvé.
Bien, chers auditeurs, je vous propose de faire une petite pause. Nous reprendrons cette émission dans quelques instants.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Bien, chers auditeurs de Canal Académie, rebonjour. Bienvenue à nouveau dans la rubrique Revue littéraire de l'émission Au fil des pages, consacrée aujourd'hui à la revue belge Marginale. Alors, Jacques de Decker, qui, je le rappelle, est directeur de cette revue. Pouvez-vous nous dire un peu comment, sur un plan éditorial, vous organisez Marginal ? Je veux dire par là, vous demandez à des écrivains belges de s'exprimer sur l'actualité immédiate et d'exprimer par la création, la poésie, le regard sur cette actualité. Et dans l'éditorial du premier numéro du nouveau Marginal de l'été 98, vous avez dit que vous vouliez mettre les écrivains, je vous cite, au pied du mur de l'actualité, du mur, pour qu'ils l'éclairent sous un autre angle. Et vous avez d'ailleurs, vous venez de développer en quelque sorte cette idée de l'autre angle pour éclairer l'actualité, pour installer en quelque sorte l'immédiat dans le mouvement lent de la société. Mais d'une façon générale, comment est-ce que vous choisissez vos thèmes d'actualité ? Quels sont ceux que vous considérez comme étant dans l'air du temps, c'est-à-dire, c'est le titre de la rubrique centrale de votre revue. Et en même temps, alors, question complémentaire, quel sens donnez-vous aux autres rubriques de la revue et comment faites-vous en sorte qu'elles puissent équilibrer l'ensemble ? J'en cite quelques-unes avec leurs titres, Chantiers et fragments, La rose des vents, etc. Comment est-ce que vous organisez tout ça ?
Au départ, il y avait un projet d'organisation. J'ai un peu peur que nous ne nous y soyons pas tenus. L'idée, c'était que la revue ait vraiment trois volets. Un premier volet qui était cette ère du temps, c'est-à-dire le rassemblement des textes des écrivains sur ce sujet d'actualité. La deuxième partie, c'était Chantiers et fragments, qui reprend des textes en cours d'élaboration, c'est-à-dire que ça aide les écrivains à soumettre aux lecteurs des ouvrages en cours d'écriture, pour lesquels ils sont assez avides de savoir quel pourrait être leur impact. Ça peut quelquefois d'ailleurs les amener à revoir l'orientation de ce qu'ils sont en train de faire. Et la troisième rubrique portait sur des textes traduits, parce que je partais de l'idée qu'à Bruxelles, qui est quand même une ville carrefour, et où énormément de communautés cohabitent, où beaucoup d'intellectuels étrangers vivent parce qu'ils sont liés à telle ou telle institution internationale située à Bruxelles, mais pas seulement ces gens-là, mais qu'on pouvait publier leurs textes en traduction. Seulement, on a été un peu victime du succès de la rubrique « Air du temps », c'est-à-dire que lorsque, sur un thème, on reçoit plus de réponses que prévu, que les contributions sont longues et qu'on remplit un numéro de 140 pages rien qu'avec ça, évidemment, les deux autres rubriques sont compressées. Donc, je regrette un petit peu de ne pas pouvoir réaliser nos objectifs, mais nous ne sommes pas en mesure de pouvoir publier des numéros de 200, 300 pages. C'est impossible. Alors, comment ça fonctionne ? Bien, très simplement, c'est une revue trimestrielle qui respecte d'ailleurs très régulièrement ses échéances. Et cela veut dire que tous les trois mois, je lance un thème et je donne aux contributeurs exactement un mois pour nous envoyer, le plus souvent d'ailleurs aujourd'hui, par courriel, des textes. Et puis, nous nous engageons dans le mois pour les publier. Ce qui veut dire qu'on a un rythme de trois mois en trois mois. Et le choix du thème, je vais vous avouer, est un choix que je veux le plus à chaud possible. Ce qui veut dire que c'est en général le 15 de trois mois dans l'année que je dois envoyer ces fameuses lettres de sollicitation. Il m'arrive de trouver le thème le matin même. Parce que j'hésite souvent et puis je me dis, au fond, aujourd'hui, vraiment, quel est le sujet qui pourrait encore dans deux mois, c'est-à-dire quand le lecteur aura la revue en main, le concerner ? Et quel est surtout le sujet sur lequel tout ce qui aura pu avoir été dit l'aurait suffisamment laissé sur sa fin pour qu'il ait encore envie d'avoir le point de vue des écrivains là-dessus ? Donc il y a là une espèce de gymnastique prospective que je m'impose et qui, quelquefois, a réussi. Bon, il y a évidemment des événements qui sont incontournables. C'est-à-dire, on est extrêmement fiers d'avoir publié sur le 11 septembre le premier écho littéraire qu'il y ait jamais eu sur la question. Il y en a d'autres depuis. Pas mal d'écrivains, maintenant, parlent du 11 septembre. Mais je crois que dès le 15 décembre, nous publions un numéro qui s'appelait « September Gong » et qui comportait des textes, d'ailleurs, tout à fait extraordinaires, inspiré par cet attentat. Donc c'est assez excitant, en fait, comme gymnastique.
Jacques de Decker, j'en viens peut-être à une question qui va suscité un débat, en dehors même de ce studio. Marginal, c'est tout de même, qu'on le veuille ou non, l'expression forte, littéraire donc forte, de ce qu'on peut appeler la belgitude. La singularité d'un pays qui est le vôtre, et que je revendique un peu aussi comme moi-même, si vous me permettez. Alors Jacques de Decker, voulez-vous, s'il vous plaît, partager avec les auditeurs de Canal Académie votre vision de la singularité belge au sein de la francité ? Je veux dire par là, est-ce que c'est simplement une complicité naturelle avec l'esprit flamand ? Le passage de Bruegel à Magritte ? L'instinct surréaliste, lequel est à milieu, si je peux me permettre, du surréalisme à la parisienne. Cet instinct surréaliste qui fait que seule la Belgique pouvait offrir aux yeux du monde une fiction, entre guillemets, comme celle produite par la RTBF le 13 décembre dernier, à propos d'une hypothétique scission flamande. Alors, question simple, finalement. Qu'est-ce que c'est la Belgique ? Qu'est-ce que c'est la littérature belge ?
Effectivement, l'émission à laquelle vous faites allusion peut notamment s'expliquer par cela, c'est-à-dire par une certaine tournure d'esprit qu'on a tendance à qualifier assez fréquemment, tout simplement, de surréaliste, et qui est peut-être liée à une chose, c'est que j'ai été amené à dire ça à diverses reprises, que la Belgique est un pays qui doit se vouloir tous les jours. Je veux dire, ce n'est pas un pays évident du tout. C'est un pays qui a une histoire assez brève, mais enfin, il y a d'autres pays beaucoup plus jeunes que la Belgique, on oublie quelquefois. Mais surtout, c'est un pays terriblement complexe et dans lequel il faut toujours réunir tellement d'éléments favorables à sa survie que quelquefois on s'en fatigue. C'est une des choses qui a expliqué peut-être l'émission dont vous parlez, qui avait été, je le ferai remarquer, anticipée par Marginal dans un numéro dont je ne peux plus situer la date, mais qui s'appelait tout simplement « La Belgique, stop ou encore ». Marginal a traité cette question. Nous avons à diverses reprises traité de questions tout à fait liées au pays, sur la Belgique dans son ensemble, sur Bruxelles, numéro qui s'appelait « Bruxelles est un pluriel », sur la Wallonie, « Wallonie revue, Wallonie rêvée », suivi d'un second numéro dans la foulée qui s'appelait « La Wallonie deuxième », parce qu'on avait eu tellement de textes là-dessus qu'on a dû doubler le numéro, qu'on a écrit à diverses reprises sur la Flandre, qu'on a parlé des Flamands, et qu'on a même été jusqu'à publier un numéro avec un titre flamand qui s'appelait Vlaanderen boven alles, qui veut dire, c'est quand même assez risqué, la Flandre au-dessus de tout, c'est-à-dire über alles, comme on disait du Troisième Reich. Donc, il y a là des prises de position sur le destin même de notre pays que nous essayons d'affronter. Alors, on peut le prendre à la manière farcesque, ce qui est souvent d'ailleurs la manière de faire des surréalistes ou même des dadaïstes qui ont été très nombreux chez nous et qui le sont encore. On a plein d'héritiers des dadaïstes. Mais tout à l'heure, vous avez l'expression de Bruegel à Magritte. Bon, ben de Bruegel à Magritte, ça veut dire de la Flandre à la Wallonie.
Exactement.
Ça veut dire de Paix de Sainte-Anne à la ville natale de Magritte. Dont j'ai oublié le nom maintenant, mais en bord de Sambre. C'est tout ça. La belgitude, c'est tellement difficile à définir que justement, restons à l'exemple de Bruegel et Magritte. C'est vrai que dans la peinture de Bruegel, vous avez quelquefois des images tellement fantasmatiques qu'on dit communément qu'elles préfigurent le surréalisme. Et que certains des grands chefs-d'œuvre de Magritte sont déjà aujourd'hui intemporels parce que ce sont de véritables emblèmes d'une vision surréaliste du monde. Donc, il y a là certainement, dans cette espèce de trop-plein de l'imaginaire, quelque chose qui caractériserait la belgitude et qui permet peut-être aussi à ce pays de se survivre sans arrêt. C'est-à-dire, il joue à sa propre mort avec une espèce de sérénité et en tout cas une absence de dégâts majeurs qui semblerait bien indiquer qu'il fait autant partie de la fiction que de la réalité. C'est d'ailleurs pour ça que ce pays est aussi, et là tout le monde en convient, un formidable réservoir de fiction. J'entends même de créatures fictionnelles qui marquent notre imaginaire collectif. Si on ne cite que Tintin, Maigret, le marsupilami, Lucky Luke, le chat de Gueluc, etc., etc., ce sont des créations belges. Et une chose est incontestable, c'est que c'est le pays qui a produit, au fil du temps, la plus forte densité de mythes reconnus comme tels au kilomètre carré. Alors rien qu'à ce titre-là, même si demain la Belgique institutionnelle, la Belgique officielle, la Belgique politique disparaît, elle demeurera dans l'imaginaire collectif et ce sera la grande victoire de la Belgitude.
Ah bah j'espère bien. La Belgique, la sérénité, l'autodérision.
Oui.
Cette capacité d'autodérision que j'ai vue personnellement nulle part ailleurs.
Non, non,
et j'aime
donc,
dans ce pays.
Effectivement, cette émission a donné une récente illustration, il faut le reconnaître.
Alors, Jacques de Decker, une dernière question, puisque nous sommes sur Canal Academy, qui est une radio diffusée sur Internet. Et il se trouve que vous avez consacré le numéro 263 de Marginal, celui de l'automne 2006, à ce que vous avez appelé l'international. Alors, dites-nous, si vous voulez bien, pour conclure cette émission, un petit mot de votre regard sur le phénomène Internet et vos doutes peut-être, vos appréhensions, mais aussi vos espoirs.
Je pense que finalement, c'est un des thèmes qui sont les plus proches de ce qui aurait pu préoccuper Albert Ekpars lui-même, à la réflexion. C'est qu'en fait, Albert était un produit de l'international. Albert était un militant, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et la question sur laquelle portait ce titre et ce thème à mes yeux n'était pas tellement la mise en question de l'Internet en soi, mais du fait que, paradoxalement, l'Internet nous éloignait de l'international, au sens politique du terme. C'est-à-dire que l'Internet, aujourd'hui, il faut, je crois, essayer quand même de l'analyser au sens où McLuhan disait que le médium est le message. Quel est exactement le message de ce médium ? Si c'est l'idée d'une espèce de gigantesque mondialisation et de standardisation de la pensée, des comportements, des objectifs, je ne crois pas que ce soit quelque chose de tellement favorable au progrès humain, peut-être au progrès industriel, peut-être au progrès commercial, mais peut-être pas totalement au progrès humain. J'en appelle simplement à une vigilance autour de l'utilisation de ce système. Peut-être que je me trompe, hein. D'ailleurs, j'ai commencé mon éditorial de ce numéro en disant « au risque d'être contre-courant de l'histoire, au risque de ne rien comprendre à l'actualité d'aujourd'hui, au risque d'être, en d'autres termes, complètement largué ». Donc, je ne suis pas sûr du tout de détenir une vérité, je veux simplement rendre attentif, et c'est ce que fait Marginal à travers tous ces numéros, appeler à la vigilance.
Eh bien, Jacques de Decker, nous arrivons au terme de cette émission. Je me réjouis d'avoir eu l'occasion de présenter cette magnifique revue Marginale et j'espère qu'elle va avoir de plus en plus de lecteurs.
Je vous remercie vraiment de l'excellence de vos questions.
Merci Jacques de Decker.